Petit bonhomme, chapitre 9. La ferme de Kerouan, suite. Le lendemain, 20 octobre, vers 3 heures de l'après-midi, des cris joyeux retentirent sur la route à l'entrée de la ferme de Kerouan. Voilà le père! Voilà la mère! Les voilà tous les deux! C'étaient Kitty et Sim qui saluaient de loin Martin et Martine McCarthy. « Bonjour, les enfants !» dit Martin. « Bonjour, mes fils !» dit Martine. Et dans sa bouche, ce « mais » possessif était empreint de fierté maternelle. Le fermier et sa femme avaient quitté les Mohicks ce matin-là de bonne heure. Une trentaine de milles à faire, lorsque les brises de l'automne sont déjà fraîches. Il y a de quoi être transi, surtout dans un « jaunting car ». Le car est appelé car parce que c'est un véhicule, et l'on y ajoute le qualificatif jaunting parce que les voyageurs y sont placés dos à dos sur deux banquettes disposées suivant l'axe des brancards. Imaginez l'un de ces bancs doubles qui meublent les boulevards des villes, ajustez-le au-dessus d'une paire de roues, complétez l'ensemble par une planchette sur laquelle les pieds des voyageurs prendront leur point d'appui, s'adossant aux bagages placés derrière eux, et vous aurez la voiture ordinairement employée en Irlande. Si ce n'est la plus commode, puisqu'elle ne permet de voir qu'un seul côté du paysage, ni la plus confortable, puisqu'elle est découverte, c'est du moins la plus rapide, et son conducteur déploie autant d'adresse que de célérité. On ne s'étonnera donc pas que Martin et Martine McCarthy, partis vers 7 heures de Limerick, fussent arrivés à 3 heures en vue de la ferme. Ils n'étaient pas seuls, d'ailleurs, à occuper ce jaunting car, qui pouvait contenir jusqu'à 10 voyageurs. Aussi, après avoir déposé le fermier et la fermière, le rapide véhicule continua-t-il sa route vers le chef-lieu du comté de Kerry. Murdoch sortit à l'instant même de son logement, situé dans l'angle de la cour, à l'endroit où les annexes de droite se raccordent au bâtiment du fond. « Vous avez fait un bon voyage, mon père ?» demanda la jeune femme que Martine venait d'embrasser. « Très bon, Kitty. Avez-vous trouvé des plants de choux au marché de Limerick ?» dit Murdoch. « Oui, fils, et on nous les expédiera demain. » « Et de la graine de navet ?» « Oui, de la meilleure sorte. » « Bien, mon père. » Et aussi une autre espèce de graine.
Laquelle ?
De la graine de bébé, Murdoch, et qui me paraît être d'excellente qualité. Et comme Murdoch et son frère ouvraient de grands yeux en regardant l'enfant que Martine tenait dans ses bras, « Voilà un garçon, dit-elle, en attendant que Kitty nous donne le pareil. « Mais il est glacé, ce petit !» répondit la jeune femme. « Je l'ai pourtant bien enveloppé de mon tartan pendant le voyage, » répliqua la fermière. « Vite, vite, » ajouta M. Martin, « allons le réchauffer devant le bon feu de l'âtre et commençons par embrasser grand-mère, qui doit en avoir besoin. » Kitty reçut petit bonhomme des mains de Martine et toute la famille fut bientôt réunie dans la salle où l'aïeul occupait un vieux fauteuil à coussin. On lui présenta l'enfant. Elle le prit entre ses bras et l'assit sur ses genoux. Lui se laissait faire. Ses yeux allaient de l'un à l'autre. Il ne comprenait rien à ce qui se passait. Il n'était pas habitué. Pour sûr, aujourd'hui ne ressemblait pas à hier. Était-ce une sorte de rêve? Il voyait de bonnes figures autour de lui, des vieilles et des jeunes. Depuis son réveil, il n'avait entendu que d'affectueuses paroles. Le voyage l'avait distrait dans cette voiture, qui allait grand train à travers la campagne. Du bon air, avec l'émanation matinale des arbustes et des fleurs, emplissait sa poitrine. Une soupe bien chaude l'avait réconforté avant le départ, et durant la route, tout en grignotant quelques gâteaux que contenait le sac de Martine, il avait raconté de son mieux ce qu'il savait de sa vie. Son existence dans la Rugged School incendiée, les bons soins de grippe, dont le nom revint souvent dans son récit. Puis Madame Anna, qu'il avait appelée son fils et qui n'était pas sa maman. puis un monsieur en colère qu'on appelait le duc, un duc dont il avait oublié le nom et qui voulait l'entraîner. Enfin son abandon, et comment il s'était trouvé tout seul dans le cimetière de Limerick. Martin McCarthy et sa femme n'avaient pas compris grand-chose à son histoire, si ce n'est qu'il n'avait ni parents ni famille, et que c'était un être abandonné dont la Providence leur avait confié la charge. Grand-mère, très émue, l'embrassa. Les autres, non moins attendris, l'embrassèrent à leur tour. « Et comment s'appelle-t-il ? » demanda grand-mère. « Il n'a pas pu nous donner d'autre nom que Petit Bonhomme, » répondit Martine. « Il n'a pas besoin d'en avoir un autre, » dit Monsieur Martin, « et nous continuerons de l'appeler comme on l'a toujours appelé. » « Et quand il sera grand ?» fit observer Sim. « Ce sera Petit Bonhomme tout de même, » répliqua la vieille femme qui baptisa l'enfant d'un bon baiser. Voilà quel fut l'accueil que notre héros reçut à son arrivée à la ferme. On lui enleva les haillons qu'il avait endossés pour son rôle de Sim. Ils furent remplacés par les derniers vêtements que Sim avait portés à son âge. Pas très neufs, mais propres et chauds. Mentionnons qu'on lui conserva son tricot de laine, qui commençait à devenir étroit, mais auquel il paraissait tenir. Et alors il soupa avec la famille, à la table de ces braves gens, assis sur une chaise haute, se demandant si tout cela n'allait pas disparaître. Non, elle ne disparut pas, la bonne soupe d'avoine, dont il eut une pleine assiettée. Il ne disparut pas le morceau de lard au chou dont on lui donna sa suffisance. Il ne disparut pas le gâteau aux œufs et à la farine de gruau qui fut distribué en parts égales entre les convives. Le tout arrosé d'un broc de cet excellent potine que le fermier tirait de l'orge récoltée sur les terres de Kerouan. Quel repas ! Sans compter que le garçonnet ne voyait que des visages souriants. Sauf peut-être celui du frère aîné, toujours sérieux et même un peu triste. Et voici que ses yeux se mouillent et que des larmes glissent le long de ses joues. « Qu'as-tu, petit bonhomme ?» lui demanda Kitty. « Il ne faut pas pleurer, » ajouta grand-mère. « On t'aimera bien ici. »« Et je te ferai des joujoux, » lui dit Sim. « Je ne pleure pas, » répondit-il. « C'est pas des larmes, ça !» Non, en vérité, et c'était plutôt son cœur qui débordait à cette pauvre créature. « Allons, allons !» dit Monsieur Martin d'un ton qui n'était point méchant. « C'est bon pour une fois, mon garçon, mais je te préviens qu'il est défendu de pleurer ici. »« Je ne pleurerai plus, monsieur, » répondit-il en se laissant aller dans les bras que lui tendait grand-mère. Martin et Martine avaient besoin de repos. D'ailleurs, on se couchait de bonne heure à la ferme, car l'habitude était de se lever de grand matin. « Où va-t-on le mettre, cet enfant ?» demanda le fermier. « Dans ma chambre, » répondit Sim, « et je lui donnerai la moitié de mon lit, comme un petit frère. »« Non, mes enfants, » répondit grand-mère. « Laissez-le coucher près de moi, il ne me gênera pas, je le regarderai dormir, et cela me fera plaisir. » Un désir de l'aïeul n'avait jamais rencontré l'ombre d'une résistance. Il suit de là qu'un lit ayant été installé près du sien, ainsi qu'elle l'avait demandé, petit bonhomme y fut immédiatement transporté. Des draps blancs, une bonne couverture, il avait déjà connu cette jouissance durant les quelques semaines passées à Royal George Hotel de Limerick, dans l'appartement de Miss Anna Watson. Mais les caresses de la comédienne ne pouvaient valoir celles de cette honnête famille. Peut-être s'aperçut-il qu'il y avait une différence, surtout lorsque grand-mère, en le bordant, lui donna un gros baiser. Ah, « Merci, merci !» murmura-t-il. Ce fut toute sa prière ce soir-là, et sans doute, il n'en savait pas d'autre. On était au début de la saison froide. La moisson venait d'être terminée. Rien à faire, ou peu de choses, en dehors de la ferme. Sur ces rudes territoires, les semailles de blé, d'Orge, d'Avoine, n'ont pas lieu au commencement de l'hiver, dont la longueur et la rigueur pourraient les compromettre. C'est affaire d'expérience. Aussi, Martin McCarthy avait-il l'habitude d'attendre mars et même avril pour semer ses céréales, en choisissant les espèces convenables. Il s'en était bien trouvé jusqu'alors. Creuser le sillon à travers un sol qui gèle à plusieurs pieds de profondeur, c'eût été un travail non moins dur qu'inutile. Autant il valut jeter sa semence au sable des grèves, aux roches du littoral. Il ne faudrait pas cependant croire que l'on fût inoccupé à la ferme. D'abord, il y avait à battre le stock d'orge et d'avoine. Et puis, au cours de ces longs mois de la période hivernale, on ne manquait pas d'ouvrage. Petit bonhomme put le constater le lendemain, car dès le premier jour, il chercha à se rendre utile. Levé à l'aube, il se rendit du côté des étables. Il avait comme un pressentiment qu'on pourrait l'employer là. Que diable ! Il aurait 6 ans à la fin de l'année. Et à 6 ans, on est capable de garder des oies, des vaches, même des moutons, quand on est aidé d'un bon chien. Donc, au déjeuner du matin, devant sa tasse de lait chaud, il en fit la proposition. « Bien, mon garçon, répondit Monsieur Martin, tu veux travailler et tu as raison. Il faut savoir gagner sa vie. »« Et je la gagnerai, Monsieur Martin, répondit-il. « Il est si jeune, fit observer la vieille femme. « Ça ne fait rien, madame. « Appelle-moi grand-mère. « Eh bien, ça ne fait rien, grand-mère. « Je serai si content de travailler. « Et tu travailleras, dit Murdoch, assez surpris de ce caractère ferme et résolu chez un enfant qui n'avait connu jusqu'alors que les misères de la vie. « Merci, monsieur. « Je t'apprendrai à soigner les chevaux, reprit Murdoch, et à monter dessus, si tu n'as pas peur. « Je veux bien, répondit petit bonhomme. « Et moi, je t'habituerai à soigner les vaches, dit Martine, et à les traire, si tu ne crains pas un coup de corne. « Je veux bien, madame Martine. « Et moi, s'écria Sim, je te montrerai comment on garde les moutons dans les champs. « Je veux bien. « Sais-tu lire, petit ? Demanda le fermier. « Un peu, et écrire en grosses lettres. « Et compter ? Oh oui, jusqu'à 100, monsieur. « Bon, dit Kitty en souriant, je t'apprendrai à compter jusqu'à 1000 et à écrire en petites lettres. « Je veux bien, madame. Et réellement, il voulait bien tout ce qu'on lui proposait, cet enfant. On voyait qu'il était décidé à reconnaître ce que ces braves gens allaient faire pour lui. Être le petit domestique de la ferme, c'est à cela que se bornait son ambition. Mais ce qui était de nature à témoigner du sérieux de son esprit, c'est sa réponse au fermier, lorsque celui-ci lui eut dit en riant « Hé, petit bonhomme, tu vas devenir un garçon précieux chez nous. Les chevaux, les vaches, les moutons, si tu t'occupes de tout, il ne restera plus de besogne pour nous. Ah, ça, combien me demanderas-tu de gages ?» « Des gages ? Oui, tu ne songes pas à travailler pour rien, je suppose. « Oh non, monsieur Martin. « Comment ? S'écria Martine, assez surprise. « Comment, en dehors de sa nourriture, de son logement, de son habillement, il a la prétention d'être payé ? « Oui, madame. » On le regardait, cet enfant, et il semblait qu'il eût dit là une énormité. Murdoch, qui l'observait, se contenta d'ajouter « Laissez-le donc s'expliquer. » « Oui, reprit grand-mère, dis-nous ce que tu veux. Est-ce de l'argent ?» Petit bonhomme secoua la tête. « Voyons, une couronne par jour ?» dit Kitty. « Oh, madame !»« Par mois ?» dit la fermière. « Madame Martine !»« Par an, peut-être ?» répliqua Sim en éclatant de rire. Une couronne par an ? Enfin, que veux-tu, mon garçon ? Dit Murdoch. Je comprends que tu aies l'idée de gagner ta vie, comme nous l'avons tous. Si peu que ce soit qu'on reçoive, cela vous apprend à compter. Que veux-tu ? Un penny ? Un copère par jour ?
Non, monsieur Murdoch.
Alors explique-toi donc.
Eh bien, chaque soir, monsieur Martin, vous me donnerez un caillou.
Un caillou ? S'écria Sim. Est-ce avec des cailloux que tu amasseras une fortune ?
Non, mais ça me fera plaisir tout de même.
Et plus tard, dans quelques années, quand je serai grand, si vous avez toujours été content de moi...
C'est entendu, petit bonhomme, répondit monsieur Martin. Nous changerons les cailloux en pence ou en shilling.
Ce fut à qui complimenterait petit bonhomme de son excellente idée. Et dès le soir même, Martin McCarthy lui remit un caillou qui venait du lit de la cachaine. Il y en avait encore des millions de millions. Petit bonhomme le glissa soigneusement dans un vieux pot de grès que grand-mère lui donna et dont il fit sa tirelire. « Singulier enfant !» dit Murdoch à son père. Oui, et sa bonne nature n'avait pu être altérée ni par les mauvais traitements de Thornpip, ni par les mauvais conseils de la Ragged School. La famille, en l'observant de près, à mesure que les semaines s'écoulèrent, dut reconnaître ses qualités naturelles. Il ne manquait même pas de cette gaieté qui est le fond du tempérament national et que l'on retrouve même chez les plus pauvres de la pauvre Irlande. Et pourtant, il n'était pas de ces gamins qui musent du matin au soir, dont les regards vont de ci, de là, distraits par une mouche ou un papillon. On le voyait réfléchi à tout, attentif au pourquoi des choses, interrogeant l'un ou l'autre, aimant à s'instruire. Ses yeux étaient fureteurs, il ne laissait pas traîner un objet, fût-il de valeur infime. Il ramassait une épingle comme s'il eût ramassé un shilling. Ses habits, il les soignait, tenant à être propres. Ses ustensiles de toilette, il les rangeait avec soin. L'ordre était inné en lui. Il répondait poliment quand on lui parlait, et n'hésitait pas à insister sur les réponses qui lui étaient posées quand il ne les avait pas comprises. En même temps, on vit qu'il ferait de rapides progrès en écriture. Le calcul surtout semblait lui être facile. Non qu'il y eût en lui l'étoffe de ces mondeux et de ces inaudits, qui, après avoir été de petits prodiges, n'ont réussi à rien dans un âge plus avancé. Mais il combinait aisément quelques opérations de tête, là où d'autres enfants auraient certainement dû prendre la plume. Ce que Murdoch put constater, non sans en éprouver une réelle surprise, c'est que c'était le raisonnement qui semblait diriger toutes ses actions. Il convient de noter aussi que, grâce aux leçons de grand-mère, il montra du zèle à se conformer aux commandements de Dieu, tels que les a formulés la religion catholique, si profondément enracinée au cœur de l'Irlande. Chaque jour, il faisait avec ferveur sa prière du matin et du soir. L'hiver s'écoulait, un hiver très froid, harcelé de grands vents, plein d'impétueuses rafales déchaînées comme des trombes à travers la vallée de la Cachaine. Que de fois on trembla à la ferme pour les toitures qui risquaient d'être emportées, pour certaines portions de murs en paillis qui menaçaient ruine. Quant à demander des réparations au middleman John Eldon, c'eût été inutile. Aussi, Martin McCarthy et ses enfants en étaient-ils réduits à s'en charger eux-mêmes. En dehors du battage des grains, cela devenait la grosse occupation. Ici un chaume à reprendre, là une brèche à boucher, et en maint endroit les clôtures à consolider. Pendant ce temps, les femmes travaillaient diversement. Grand-mère filant au coin du foyer, Martine et Kitty veillant aux étables et à la basse-cour. Petit bonhomme, sans cesse avec elle, les aidait de son mieux. Il tenait état de tout ce qui regardait le train de la maison. Trop jeune pour soigner les chevaux, il était entré en relation plus intime avec le baudet, une bonne bête, opiniâtre au travail, qu'il avait prise en amitié et qui le lui rendait. Il voulait que son âne fût aussi propre que lui-même, ce qui lui valait les compliments de Martine. Pour les porcs, il est vrai, c'eût été peine perdue, et il dut y renoncer. Quant aux moutons,
après les avoir comptés et recomptés, il avait inscrit leur nombre, 103, sur un vieux carnet, présent de Kitty. Son goût pour cette comptabilité se développait graduellement, et c'était à croire qu'il avait reçu les leçons de M. Hobotkins à la Ragged School. D'ailleurs, cette vocation ne parut-elle pas nettement établie le jour où Martine alla chercher des œufs conservés pour la saison d'hiver. La fermière venait d'en prendre une douzaine au hasard lorsque petit bonhomme s'écria « Pas cela, Madame Martine !»«
Pas cela ? Et pourquoi ?»«
Parce que ce n'est pas dans l'ordre !»«
Quel ordre ? Est-ce que ces œufs de poule ne sont pas tous pareils ?»
« Bien sûr non, Madame Martine. Vous venez de prendre le 48e, tandis que c'est par le 37e qu'il faut commencer. Regardez bien. »
Et Martine regarda.
Ne voilà-t-il pas que chaque œuf portait un numéro sur sa coque, un numéro que petit bonhomme y avait inscrit à l'encre. Puisque la fermière avait besoin de 12 œufs, il fallait qu'elle les prît suivant leur numérotage, de 37 à 48, et non de 48 à 59. C'est ce qu'elle fit, après avoir adressé ses félicitations au garçonnet. Lorsqu'elle raconta la chose au déjeuner, les compliments redoublèrent, et Murdoch se prit à dire « Petit bonhomme, as-tu au moins compté les poules et les poussins du poulailler ?»«
Certainement !»
Et tirant son carnet, « Il y a 43 poules et 69 poussins. » Là-dessus, Sim d'ajouter « Tu devrais aussi compter les grains d'avoine que contient chaque sac. »«
Ne le plaisantez pas, mes fils, » répliqua Martin McCarthy.
« Cela prouve qu'il a de l'ordre, et l'ordre dans les petites choses. C'est la régularité dans les grandes et dans l'existence. » Puis s'adressant à l'enfant, « Et tes cailloux ?» lui demanda-t-il. « Les cailloux que je te remets chaque soir ?»
« Ils sont serrés dans mon pot, Monsieur Martin, » répondit petit bonhomme, « et j'en ai déjà 57. »
En effet, il y avait 57 jours qu'il était arrivé à la ferme de Kerouan.
« Hé !» fit grand-mère, « ça lui ferait déjà 57 pence à un penny le caillou. »«
Hein ? Petit bonhomme, » reprit Sim, « que de gâteaux tu pourrais acheter avec cet argent-là. »«
Des gâteaux ? Non, Sim. » De beaux cahiers pour écrire, j'aimerais mieux cela.
La fin de l'année approchait. Aux bourrasques du mois de novembre avaient succédé de grands froids. Une épaisse couche de neige durcie recouvrait le sol. C'était un spectacle qui ravissait notre petit garçon, de voir les arbres tout blancs de givre avec leurs pendeloques de glace. Et sur les vitres des fenêtres, l'humidité condensée en cristallisations capricieuses qui formaient de si jolis dessins. Et la rivière, prise d'un bout à l'autre, avec des glaçons qui s'amassaient pour former une énorme embâcle. Certes, il n'était pas nouveau pour lui ces phénomènes de l'hiver, et il les avait souvent observés, quand il courait à travers les rues de Galway jusqu'à Gladac. Mais à cette misérable époque de sa vie, il était à peine vêtu. Il allait pieds nus dans la neige. La bise pénétrait à travers ses loques, ses yeux pleuraient, ses mains étaient crevassées d'engelures. Et quand il rentrait à la Ragged School, il n'y avait pas de place pour lui devant le foyer. Qu'il se sentait heureux à présent! Quel contentement de vivre au milieu de gens qu'il aimait! Il semblait que leur affection le réchauffait plus encore que les vêtements qui le garantissaient de la bise. La saine nourriture servie sur la table, les belles flammes de fagots pétillant au fond de la cheminée. Et ce qui lui paraissait meilleur encore, maintenant qu'il commençait à se rendre utile, c'est qu'il sentait de bon cœur autour de lui. Il était vraiment de la maison. Il avait une grand-mère, une mère, des frères, des parents. Et ce serait parmi eux, sans jamais les quitter, pensait-il, que se passerait son existence. Ce serait là qu'il gagnerait sa vie. Gagner sa vie, comme le lui avait dit un jour Murdoch. C'est à cela que sa pensée le ramenait sans cesse.
Quelle joie il ressentit quand, pour la première fois, il put prendre part à l'une des fêtes qui est peut-être la plus sanctifiée de l'année irlandaise. On était au 25 décembre, la Noël, le Christmas. Petit bonhomme avait appris à quel événement historique répond la solennité que les chrétiens célèbrent en ce jour. Mais il ignorait que ce fut aussi une intime fête de famille dans le Royaume-Uni. Ce devait donc être une surprise pour lui. Il comprit cependant qu'il se faisait quelques préparatifs dans la matinée. Toutefois, comme grand-mère, Martine et Kitty semblaient y mettre une complète discrétion, il se garda bien de les interroger. Ce qui est positif, c'est qu'il fut invité à revêtir ses beaux habits que Martin McCarthy et ses fils, grand-mère, sa fille et Kitty, mirent les leurs dès le matin pour aller en carriole à l'église de Silton, et qu'ils les gardèrent toute la journée. Ce qui est avéré, c'est que le dîner dut être reculé de 2 heures, et qu'il faisait presque nuit lorsque la table fut dressée au milieu de la grande salle avec un luxe de luminaire qui la rendait éblouissante. Ce qui est certain, c'est que de très bonnes choses furent servies à ce repas somptueux. 3 ou 4 plats de plus que d'habitude, avec des brocs d'une bière réjouissante et un gâteau monstre que Martine et Kitty avaient confectionné d'après une recette dont le secret venait d'une bisaïeule très entendue en sciences culinaires. Si l'on mangea gaiement, si l'on but de même, nous le laissons à imaginer. Tous étaient en joie. Murdoch lui-même s'abandonnait plus qu'il ne le faisait d'ordinaire. Alors que les autres riaient aux éclats, il souriait. Et un sourire de lui, c'était comme un rayon de soleil au milieu des frimas. Quant à petit bonhomme, ce qui l'enchanta particulièrement, ce fut un arbre de Noël planté au centre de la table. Un arbre enrubanné avec des étoiles de lumière toutes scintillantes entre ses branches. Et voilà grand-mère qui lui dit « Regarde bien sous les feuilles, mon enfant. Je crois qu'il doit y avoir quelque chose pour toi. » Petit bonhomme ne se fit pas prier. Et quel bonheur il éprouva! Quelle rougeur de plaisir lui monta au visage lorsqu'il eut cueilli un joli couteau irlandais avec sa gaine rattachée à une ceinture de cuir. C'était le premier cadeau de nouvelle année qu'il recevait. Et combien il fut fier lorsque Sim l'eut aidé à boucler la ceinture sur sa veste. « Merci, grand-mère. Merci tout le monde !» s'écria-t-il en allant de l'un à l'autre. Chapitre 10. Ce qui s'est passé au Donegal. Le moment est venu de mentionner que le fermier McCarthy avait eu l'idée de faire quelques recherches relatives à l'état civil de son enfant adoptif. On connaissait son histoire depuis le jour où de charitables habitants de Westport l'avaient arraché au mauvais traitement du montreur de marionnettes. Mais antérieurement, quelle avait été l'existence de ce pauvre être ? Petit bonhomme, on le sait, conservait une vague idée d'avoir demeuré chez une méchante femme avec une et même avec 2 fillettes, au fond d'un hameau du Donegal. Aussi fut-ce de ce côté que M. Martin dut porter les investigations. Ses recherches ne donnèrent d'autres renseignements que ceux-ci. À la maison de charité de Donegal, on retrouva la trace d'un enfant de 18 mois, recueilli sous le nom de Petit Bonhomme, puis envoyé dans un hameau du comté chez une de ces femmes qui font le métier d'éleveuse. Qu'il nous soit donc permis de compléter ces renseignements par ce que nous a révélé une enquête plus approfondie. Ce ne sera d'ailleurs que la commune histoire de ces petits misérables abandonnés à la merci de l'assistance publique. Le Donegal, avec sa population de 200 000 âmes, est peut-être le plus indigent des comtés de la province d'Ulster, et même de toute l'Irlande. Il y a quelques années, on y trouvait à peine 2 matelas et 8 paillasses par 4 000 habitants. Sur ces arides territoires du Nord, ce ne sont pas les bras qui manquent à la culture,
c'est le sol cultivable. Le plus opiniâtre des travailleurs s'y épuise en vain. À l'intérieur, on ne voit que ravins stériles, gorges ingrates, terrains tourmentés, noyaux pierreux, dunes sablonneuses, tourbières béantes comme des écorchures malsaines, landes marécageuses, chevauchées de montagnes, les Glendowan, les Derwiwek. En un mot, un pays rompu, disent les Anglais. Sur le littoral, baies et fjords, anses et criques, dessinent autant d'entonnoirs caverneux où s'engouffrent les vents du large. Gigantesques orgues granitiques que l'océan remplit à plein poumon de ses tempêtes. Le Donegal est au premier rang des régions offertes à l'assaut des tourmentes venues d'Amérique. Gonflé sur un parcours de 3000 miles du cortège des bourrasques qu'elles attirent à leur passage. Il ne faut pas moins qu'une côte de fer pour résister à ces formidables galernes du Nord-Ouest. Et précisément, la baie de Donegal, sur laquelle s'ouvre le port de pêche de ce nom, découpé en mâchoire de requin, doit aspirer ces courants atmosphériques, saturés de l'embrun des lames. Aussi, la petite ville, située au fond, est-elle largement éventée en toute saison. Ce n'est pas son écran de colline qui peut arrêter les ouragans du large. Ils n'ont donc rien perdu de leur véhémence quand ils attaquent le hameau de Windhoek, à 7 miles au-delà de Donegal. Un hameau? Non. 9 à 10 huttes éparses aux abords d'une étroite gorge, ravinée par un cours d'eau, simple filet l'été, gros torrent l'hiver. De Donegal à Windhoek, nul chemin tracé, quelques sentes seulement, à peine praticables aux charrettes du pays, attelées de ses chevaux irlandais, prudents d'allure, sûrs de pied, et parfois à des jaunting cars. Si diverses railways desservent déjà l'Irlande, le jour semble assez éloigné où leurs trains parcourront régulièrement les comtés de l'Ulster. À quoi bon d'ailleurs? Les bourgades et les villages sont rares. Les étapes du voyageur aboutissent plutôt à des fermes qu'à des paroisses. Cependant, ça et là apparaissent quelques châteaux, environnés de verdure, qui charment le regard par leur fantaisiste ornementation d'architecture anglo-saxonne. Entre autres, plus au nord-ouest, du côté de Milford, se dresse l'habitation seigneuriale de Currycart, au milieu d'un vaste domaine de 90 000 acres, propriété du comte de Leitrim. Les cabanes, ou huttes du hameau de Windhoek, ce qu'on appelle vulgairement des « cabins », n'ont de la chaumière que le chaume, toiture insuffisante contre les pluies hivernales, égayée par la capricieuse floraison des giroflées et des joubarbes. Ce chaume recouvre une hutte en boue séchée, renforcé d'un mauvais caillou-tis étoilé de lézardes, qui ne vaut point la joupa des sauvages ou l'isba des Kamtchadal. C'est moins que la bicoque, moins que la masure. On n'imaginerait même pas que pareil taudis pût servir de logement à des créatures humaines. N'était le filet de fumée qui s'échappe du faîte émaillé de fleurs. Ce ne sont ni le bois ni la houille qui produisent cette fumée, c'est la tourbe, extraite du marais voisin, le bog, à teinte roussâtre, aux flaques d'eau sombre, tout enverdi de bruyère, et dans lequel les pauvres gens de Windhoek taillent à même leurs morceaux de combustible. On ne risque donc pas de mourir de froid au sein de ces âpres comtés, mais on risque d'y mourir de faim. À peine le sol fait-il l'aumône de quelques légumes et de quelques fruits. Tout y languit, à l'exception de la pomme de terre. À ce légume, que peut ajouter le paysan du Donegal? Parfois, l'oie et le canard, plutôt sauvages que domestiques. Quant au gibier, lièvres et grouses, il n'appartient qu'au landlord. Il y a aussi, éparses à travers les ravins, quelques chèvres, donnant un peu de lait, puis des cochons aux soies noires, qui trouvent à s'engraisser en fouillant de leurs groins les maigres détritus. Le cochon est le véritable ami, le familier de la maison, comme l'est le chien en de moins misérables pays. C'est le gentleman qui paie la rente, suivant la juste expression recueillie par Mademoiselle de Beauvais. Voici ce qu'était à l'intérieur l'une des plus lamentables huttes de ce hameau de Windhoek. Une chambre unique, close d'une porte vermoulue à vantaux déjetés. Deux trous, à droite et à gauche, laissant filtrer le jour à travers une cloison de paille sèche, et l'air aussi. Sur le sol, un tapis de boue. Au chevron, des pendeloques de toile d'araignée. Un âtre, au fond, avec cheminée montant jusqu'au chaume. Un grabat dans un coin, une litière dans l'autre. En fait de meubles, un escabeau boiteux, une table estropiée, un baquet zébré de moisissures verdâtres, un rouet à manivelle criarde. Comme ustensile, une marmite, un poêlon, quelques écuelles, jamais lavées, essuyées à peine, sans compter deux ou trois bouteilles que l'on remplissait au ruisseau, après les avoir vidées du whisky ou du gin qu'elles contenaient. Ça et là, pendues ou traînant, des loques, des guenilles, n'ayant plus forme de vêtements, des linges sordides trempant dans le baquet ou séchant au bout d'une perche, au dehors. Sur la table, en permanence, un faisceau de verges, effiloché par l'usage. C'était la misère dans toute son abomination. La misère telle qu'elle s'étale et croupit au milieu des pauvres quartiers de Dublin ou de Londres, à Clerkenwell, à Saint-Gilles, à Marylebone, à Whitechapel, la misère irlandaise, la plus épouvantable de toutes, renfermée dans ses ghettos au fond de l'East End de la capitale. Il est vrai, l'air n'est pas empesté entre ces gorges du Donegal. On y respire la vivifiante atmosphère exhalée des montagnes. Les poumons ne s'y empoisonnent pas de miasmes délétères, sueurs morbides des grandes cités. Il va sans dire que dans ce bouge, le grabat était réservé à la harde et la litière aux enfants. Les verges aussi. La harde, oui. C'est ainsi qu'on la désignait, la dure, et elle méritait ce nom. C'était bien la plus odieuse mégère que l'on pût imaginer. 40 à 50 ans d'âge, longue, grande, maigre tignasse et bourriffée de harpies, yeux bridés sous la broussaille rousse des sourcils, dents en croc, nez en bec, mains décharnées et osseuses, plutôt des pattes que des mains, avec des doigts en griffes, haleine saturée d'émanations alcooliques, vêtue d'une chemise rapiécée et d'une jupe en lambeaux, les pieds nus et d'un cuir si épais qu'il ne s'écorchait point aux cailloux. Le métier de ce dragon femelle était de filer le lin, ainsi qu'on le fait d'ordinaire dans les villages de l'Irlande, et plus spécialement chez les paysannes de l'Ulster. Cette culture linière est assez fructueuse, bien qu'elle n'arrive pas à compenser ce qu'un meilleur sol devrait produire en céréales. Mais, à ce travail qui lui rapportait quelques pence par jour, la harde adjoignait d'autres fonctions qu'elle était inapte à remplir. Elle faisait métier d'élever les enfants en bas âge, que lui confiait le « baby farming ». Lorsque la maison de charité des villes est trop pleine, ou quand la santé des petits malheureux exige l'air de la campagne, on les envoie à ces matrones, qui vendent des soins maternels comme elles vendraient n'importe quelle marchandise, au prix annuel de 2 ou 3 livres. Puis, dès que l'enfant atteint l'âge de 5 ou 6 ans, il est rendu à la maison de charité. D'ailleurs, la fermeuse ne peut guère gagner sur lui, tant la somme allouée pour son entretien est infime. Aussi, par malheur, quand le baby tombe entre les mains d'une créature sans entrailles, et le cas n'est que trop fréquent, n'est-il pas rare qu'il succombe à d'odieux traitements et au manque de nourriture? Et combien de ces larves humaines ne rentrent pas à la maison de charité? C'était ainsi, du moins, avant la loi de 1889, loi de protection de l'enfance, qui, grâce à de sévères inspections chez les exploiteuses du baby farming, a notablement diminué la mortalité des enfants élevés hors des villes. Observons qu'à cette époque, la surveillance ne s'exerçait que peu ou pas. Au hameau de Windhoek, la Hard n'avait à redouter ni la visite d'un inspecteur, ni même la plainte de ses voisins, endurcis dans leur propre misère. 3 enfants lui avaient été confiés par la maison de charité de Donegal, 2 petites filles de 4 et 6 ans et demi, et un petit garçon de 2 ans et 9 mois. Des enfants abandonnés, cela va sans dire. Peut-être même des orphelins recueillis sur la voie publique. Dans tous les cas, on ne connaissait point leurs parents. On ne les connaîtrait jamais sans doute. S'ils revenaient à Donegal, c'était le travail au workhouse qui les attendait lorsqu'ils auraient l'âge. Ce workhouse dont sont pourvus non seulement les villes, mais les bourgades et parfois les villages de la Grande-Bretagne. Quel était le nom de ces enfants? Ou plutôt, lequel leur avait-on donné à la maison de charité? Le premier venu. Du reste, peu importe le nom de la plus petite des 2 fillettes, car elle va bientôt mourir. Quant à la plus grande, elle s'appelait Sissi, abréviation de Cecily. Jolie enfant, aux cheveux blonds, qu'un peu de soin eût rendu doux et soyeux. Grands yeux bleus, intelligent et bon, dont la limpidité était déjà altérée par les larmes. Mais les traits hâves et tirés, le teint décoloré, les membres amaigris, la poitrine creuse, les côtes saillantes sous ses haillons, comme celles d'un écorché. Voilà à quel état l'avaient réduite les mauvais traitements. Et cependant, douée d'une nature patiente et résignée, elle acceptait la vie qu'on lui faisait, sans se figurer que cela eût pu être autrement. Et où aurait-elle appris qu'il y a des enfants choyés de leur mère, entourés d'attention, enveloppés de caresses, auxquels ne manquent ni les baisers, ni les bons vêtements, ni la bonne nourriture? Ce n'était pas dans la maison de charité, où ces pareils n'étaient pas mieux traités que des petits animaux. Si l'on demande le nom du garçon, la réponse sera qu'il n'en a même pas. Il avait été trouvé au coin d'une rue de Donegal, à l'âge de 6 mois, enroulé d'un morceau de grosse toile, la figure bleuie, n'ayant plus que le souffle. Transporté à l'hospice, on l'avait mis avec les autres bébés, et personne ne s'était occupé de lui donner un nom. Que voulez-vous? Un oubli. D'habitude, on l'appelait Little Boy, petit bonhomme, et, nous l'avons vu, c'est ce qualificatif qui lui est resté. Il était très probable, d'ailleurs, quoique Grip d'une part, Miss Anna Weston de l'autre, dussent penser de lui, qu'il n'appartenait point à une famille riche à laquelle on l'aurait volé. C'est bon pour les romans, cela. Des 3 produits de cette portée, n'est-ce pas le mot, remis à la garde de la mégère, petit bonhomme était le plus jeune, 2 ans et 9 mois seulement, brun, avec des yeux brillants, qui promettait d'être énergique un jour, si la mort ne les fermait pas prématurément. Une constitution qui deviendrait robuste, si l'air méphitique de ce taudis, l'insuffisance de nourriture, ne frappait pas son développement d'un rachitisme précoce. Toutefois, ce qu'il convient d'observer, c'est que ce petit, possédant une grande force de résistance vitale, devait opposer une endurance peu ordinaire à tant de causes de dépérissement. Toujours affamé, il ne pesait que la moitié de ce qu'il aurait dû peser à son âge. Toujours grelottant durant les longs hivers de l'Irlande, il ne portait par-dessus sa chemise en lambeaux qu'un vieux morceau de velours à côtes auquel on avait fait 2 trous pour ses bras. Mais ses pieds nus s'appuyaient carrément sur le sol et il était solide des jambes. Les soins les plus élémentaires eussent vite donné sa valeur à cette délicate machine humaine, qui l'eût rendue plus tard en intelligence et en travail. Ces soins, il est vrai, à moins d'un concours inespéré de circonstances, où les aurait-il trouvés, et de quelle main pouvait-il les attendre? Un seul mot sur la plus jeune des fillettes. Une fièvre lente la consumait. La vie se retirait d'elle comme l'eau d'un vase fêlé. Il lui eût fallu des remèdes, et les remèdes sont coûteux. Il lui eût fallu un médecin, et un médecin viendrait-il de Donegal pour une pauvre marmotte, née on ne sait où dans ce lamentable pays des enfants abandonnés? Aussi la Harde ne pensait-elle pas qu'il y eût lieu de se déranger. Cette petite, une fois morte, la maison de charité lui en fournirait une autre, et elle ne perdrait rien des quelques shillings qu'elle s'essayait à gagner sur ses enfants. Il est vrai, puisque le gin, le whisky, le porter ne coulent pas dans le lit des ruisseaux de Rindock, il s'ensuit que la satisfaction de ses penchants d'ivrognesse absorbait le plus clair de l'allocation versée entre ses mains. Et en ce moment, des 50 shillings reçus en janvier par tête d'enfant pour l'année entière, il n'en restait que 10 à 12. Que ferait la Harde pour subvenir aux besoins de ses pensionnaires? Si elle ne risquait pas de mourir de soif, étant donné un certain nombre de bouteilles cachées au fond d'une encoignure du cabin, les petits mourraient d'inanition. Telle était la situation, et c'est à cela que réfléchissait la Harde, autant du moins que le permettait son cerveau noyé d'alcoolisme. Demander un supplément d'allocation à la maison de charité? Inutile, on refuserait. Il y avait d'autres enfants, nombreux et sans famille, auxquels l'assistance publique suffisait à peine. Serait-elle donc forcée de rendre les siens? Alors elle y perdait son gagne-pain. Il serait plus juste de dire son gagne-gin. C'est bien là ce qui lui saignait le cœur, et non la pensée que cette pauvre nichée n'avait pas mangé depuis la veille. Résultat de ses réflexions, la Harde se remettait à boire, et comme les deux fillettes et le petit garçon ne parvenaient pas à retenir leurs gémissements, elle les frappait. À une demande de pain, elle répondait par une poussée violente qui renversait la victime. À une supplication, elle ripostait par des coups. Cela ne pouvait durer. Les quelques shillings qui sautillaient au fond de sa poche, il faudrait les dépenser, afin d'acheter si peu que ce fût de nourriture, car on ne lui aurait fait crédit nulle part. « Non, non, non !» répétait-elle. « Qu'ils crèvent plutôt, les gueux !» On était au mois d'octobre. Il faisait froid à l'intérieur de cette masure à peine close, criblée de pluie à travers son toit chauve par places comme la tête d'un vieillard. Le vent aboyait entre les ais disjoints de la charpente. Ce n'était pas le maigre feu de tourbe qui aurait pu maintenir une température supportable. Sissi et petit bonhomme se serraient étroitement l'un contre l'autre, sans parvenir à se réchauffer. Tandis que la petite malade suait la fièvre sur la bottée de paille, la mégère allait de ci de là, d'un pas mal assuré, se raccrochant au mur, évitée du petit garçon qu'elle eût envoyé rouler en quelques coins. Sissi venait de s'agenouiller près de la malade, dont elle humectait les lèvres d'eau froide. De temps en temps, elle regardait l'âtre, où les tourbes menaçaient de s'éteindre. La marmite n'était pas sur le trépied, et d'ailleurs, il n'y aurait rien eu à mettre dedans. La Harde grommelait à part. « 50 shillings ! Nourrissez donc un enfant avec 50 shillings ! Et si je leur demandais un supplément à ces 100 cœurs de la maison de charité, ils m'enverraient au diable !» C'était probable, et c'était même certain. Et lui eût-on accordé ce supplément, que les 3 pauvres êtres n'en auraient pas obtenu un morceau de plus. La veille, on avait achevé ce qui restait du stirabout, grossière bouillie de farine d'avoine, cuite à l'eau comme les grous de la Bretagne. Et depuis, personne n'avait mangé dans la hutte, pas plus la Harde que les enfants. Elle se soutenait de gin et entendait bien ne point dépenser en nourriture un seul penny de ce qu'elle avait en réserve. Elle en serait donc réduite à ramasser au coin de la route quelques pelures de pommes de terre pour le souper. En ce moment, des grognements retentirent au dehors. La porte fut repoussée. Un cochon, qui errait à travers les rues boueuses, pénétra dans le cabin. Cette bête affamée se mit à fureter dans les coins, reniflant à grands coups. La harde, après avoir refermé la porte, ne chercha même pas à le chasser. Elle regardait l'animal de cet œil de l'ivrogne qui ne se fixe nulle part. Sissi et Petit Bonhomme se relevèrent afin de se garer du pourceau. Tandis que l'animal fouillait du groin les ordures du sol, son instinct lui fit découvrir, derrière le foyer éteint, sous la tourbe grisâtre, une grosse pomme de terre qui avait roulé en cet endroit. Il s'en empara, et après un nouveau grognement, il la saisit entre ses mâchoires. Petit Bonhomme l'aperçut. Cette grosse pomme, il la lui fallait. D'un bond s'élançant sur le porc, il la lui arracha, au risque de se faire piétiner et mordre. Alors, appelant Sissi, elle et lui la dévorèrent à belles dents. L'animal était demeuré immobile. Puis, la rage le prenant, il bondit sur l'enfant. Petit Bonhomme essaya de s'enfuir avec le morceau de pomme de terre qu'il tenait à la main. Mais sans l'intervention de la harde, ayant été renversée par l'animal, il n'aurait pas échappé à de cruelles morsures, bien que Sissi fût venue à son secours. L'ivrognesse hébétée, qui regardait, parut comprendre enfin. Saisissant un bâton, elle frappa à tour de bras le pourceau qui semblait décidé à ne pas lâcher prise. Ses coups mal assurés risquaient de briser la tête de Petit Bonhomme. Et on ne sait trop comment cette scène aurait fini, lorsqu'un léger bruit se produisit à la porte. Chapitre 11. Prime à gagner. La harde resta interdite. Jamais on ne cherchait à entrer dans son taudis. Personne ne devait avoir cette pensée. D'ailleurs, pourquoi frapper? Il n'y avait qu'à lever le hoquet. Les enfants s'étaient réfugiés dans un coin où ils achevaient de dévorer la pomme de terre, gloutonnement, les joues grossies par des bouchées énormes. On frappa de nouveau, un peu plus fort. Ce coup n'indiquait point le visiteur impérieux ou pressé qui s'impatiente. Était-ce un misérable? Un mendiant de grande route venant demander la charité? La charité dans ce bouge. Et cependant, il semblait que c'était là un coup de pauvre. La harde se redressa, s'affermit sur ses jambes, fit un geste de menace aux enfants. Il se pouvait que ce fût un inspecteur de Donegal, et il ne fallait pas que Petit Bonhomme et sa compagne allassent crier la faim. La porte s'ouvrit, et le pourceau s'esquiva en jetant un grognement féroce. Un homme, arrêté sur le seuil, faillit être renversé. Il se remit d'aplomb, et au lieu de se fâcher, parut plutôt disposé à demander excuse de son importunité. Son salut eut l'air de s'adresser autant à l'immonde animal qu'à la non moins immonde matrone du cabin. Et en vérité, pourquoi aurait-il été surpris de voir un cochon sortir de cette soue? « Que voulez-vous? Et qui êtes-vous ? » demanda brusquement la harde en barrant l'entrée. « Je suis un agent, bonne dame, » répondit l'homme. « Un agent ?» Ce mot la fit reculer. Cet agent appartenait-il au baby farming, bien que les visites fussent si rares que jamais un inspecteur ne s'était encore montré au hameau de Windhoek? Venait-il de la maison de charité de Donegal pour un rapport sur les enfants envoyés à la campagne? Quoi qu'il en soit, dès qu'il eut pénétré dans le taudis, la harde se mit à l'étourdir de sa volubilité. « Excuse, monsieur, excuse, vous arrivez quand je suis en train de nettoyer. Ces chers petits, voyez comme ils se portent. Ils viennent d'avaler leur bonne pinte de soupe au gruau. La fillette et le garçon s'entend, car l'autre est malade. Oui, une fièvre qu'on ne peut pas arrêter. J'allais partir pour Donegal chercher un médecin. Pauvre cœur, je les aime tant. » Et avec sa physionomie sauvage, son œil farouche, la harde avait l'air d'une tigresse qui s'efforcerait de se faire chatte. « Monsieur l'inspecteur, reprit-elle, si la maison de charité m'accordait quelque argent afin d'acheter des remèdes, nous n'avons que juste pour la nourriture. » « Je ne suis point un inspecteur, bonne dame, » répondit l'homme d'un ton doucereux. « Mais qui êtes-vous donc ? » demanda-t-elle assez durement. « Un agent d'assurance. » C'était un de ces courtiers qui fourmillent à travers les campagnes irlandaises comme les chardons sur les mauvaises terres. Il court les villages cherchant à assurer la vie des enfants. Et dans ces conditions, autant dire que c'est leur assurer la mort. Pour quelques pence à payer par mois, des pères ou mères, cela est horrible à penser, des parents ou tuteurs, d'abominables créatures du genre de la harde, ont la certitude de toucher une prime de 3 ou 4 livres au décès de ces petits êtres. C'est donc là un encouragement au crime et un mobile si puissant que par l'accroissement dans une énorme proportion de la mortalité infantile, il a pu devenir un danger national. Aussi, ces abominables officines qui les produisent, Monsieur Day, président des Assises du Wiltshire, a-t-il pu justement les traiter de fléaux, d'écoles d'ignominie et d'assassinat? Depuis lors, il est vrai, une notable amélioration du système a été produite par la loi de 1889, et l'on ne s'étonnera pas que la création de la Société nationale pour la répression des actes de cruauté envers les enfants donne actuellement quelques bons résultats. Et qui ne sera surpris, qui ne s'affligera, qui ne rougira de ce que, vers la fin du XIXe siècle, une telle loi ait été nécessaire chez une nation civilisée. Une loi qui oblige les parents à nourrir les êtres dont ils ont la charge, qui, alors même qu'ils n'en sont que les tuteurs ou les gardiens, les astreint à se conformer aux obligations envers les mineurs vivant sous leur toit. Et cela sous des peines dont le maximum peut s'élever jusqu'à 2 ans de travaux forcés. Oui. Une loi, là où les seuls instincts naturels auraient toujours dû suffire. Mais à l'époque où débute cette histoire, la protection ne s'exerçait pas au profit des enfants confiés par les maisons de charité à des affermeuses de la campagne. L'agent qui venait de se présenter chez la Harde était un homme de 45 à 50 ans. L'air en dessous, la mine hypocrite, les manières persuasives, la parole insinuante. Type de courtier qui ne songe qu'au courtage et auquel tous les moyens sont bons pour l'obtenir. Amadouer cette mégère, affecter de ne rien voir de l'état honteux dans lequel croupissaient ses victimes, la féliciter, au contraire, de l'affection qu'elle leur témoignait, c'est par ces procédés qu'il comptait enlever l'affaire. « Bonne dame, reprit-il, si ce n'est pas trop vous déranger, vous conviendrait-il de sortir un instant ?»«
Vous avez à me parler ?» demanda la Harde, toujours soupçonneuse.
« Oui, bonne dame, j'ai à vous parler de ces jeunes enfants, et je me reprocherais de traiter devant eux un sujet qui pourrait leur causer de la peine. » Tous deux étant sortis, s'éloignèrent de quelques pas après avoir refermé la porte. « Nous disons, bonne dame, reprit l'agent d'assurance, que vous avez 3 enfants.
« Oui. À vous ?
Non.
Êtes-vous leurs parentes ?
Non. Alors ils vous ont été envoyés par la maison de charité de Donegal ?
Oui.
À mon avis, bonne dame, ils ne pouvaient être placés en de meilleures mains. Et pourtant, malgré les soins les plus assidus, il arrive quelquefois que ces petits êtres tombent malades. C'est si fragile la vie d'un enfant, et j'ai cru voir que l'une de vos fillettes... Je fais ce que je peux, monsieur, répondit la Harde, qui parvint à tirer une larme de ses yeux de louve. Je veille nuit et jour sur ces enfants. Je me prive souvent de nourriture afin qu'ils ne manquent de rien. Ce que la maison de charité nous donne pour leur entretien est si peu de choses. À peine 3 livres, monsieur, 3 livres par an.
En effet, c'est insuffisant, bonne dame, et il faut un véritable dévouement de votre part pour subvenir aux besoins de ces chères créatures.
Nous disons que vous avez actuellement 2 fillettes et 1 garçonnet.
Oui.
Des orphelins, sans doute.
C'est probable.
L'habitude que j'ai de rendre visite aux enfants me permet d'estimer à 4 et 6 ans l'âge des 2 petites filles et à 2 ans et demi celui du garçon.
Et pourquoi toutes ces questions ?
Pourquoi, bonne dame, vous allez le savoir. La Harde lui jeta un regard louche.
« Certainement, reprit-il, l'air est pur dans ce comté de Tonical. Les conditions hygiéniques y sont excellentes. Et pourtant, ces bébés sont si frêles que, malgré vos bonnes tendresses, il pourrait vous arriver... Pardonnez-moi de déchirer votre cœur. Il pourrait vous arriver de perdre l'un ou l'autre de ces petits. Vous devriez les assurer. »
Les assurer ?
Oui, bonne dame, les assurer à votre profit.
À mon profit ?
S'écria la Harde, dont le regard s'anima de convoitise.
Vous le comprendrez sans peine. En payant à ma compagnie quelques pence par mois, vous toucheriez une prime de 2 à 3 livres s'il venait à mourir.
2 à 3 livres ?
Répéta la Harde. Et l'agent put se dire que sa proposition avait chance d'être agréée.
« Cela se fait généralement, bonne dame, » reprit-il d'un ton mielleux. « Nous avons déjà plusieurs centaines d'enfants assurés dans les fermes du Donegal, et si rien ne peut consoler de la mort d'un pauvre être qu'on a entouré de dévouement, c'est toujours du moins une compensation. Oh, bien légère, je l'avoue. » De toucher quelques guinées en bon or d'Angleterre que notre compagnie est heureuse d'offrir.
La Harde saisit la main du courtier.
Et on touche sans difficulté ?
Demanda-t-elle d'une voix rauque en regardant autour d'elle.
Sans difficulté, bonne dame. Dès que le médecin a constaté la mort de l'enfant, il n'y a plus qu'à passer chez le représentant de la compagnie à Donegal.
Puis, tirant un papier de sa poche,
« J'ai des polices toutes préparées, » dit-il, « et si vous consentiez à mettre votre signature au bas, vous seriez moins inquiète de l'avenir. Et j'ajoute, en cas que l'un de vos enfants viendrait à mourir, hélas, cela ne se voit que trop. La prime pourrait vous aider à l'entretien des autres.
C'est vraiment si peu ce que donne la maison de charité. »
« Et cela me coûterait ?» demanda la Harde.
« 3 pence par mois et par enfant, soit 9 pence.
Vous assureriez même la petite ?»«
Certainement, bonne dame, et quoiqu'elle m'ait paru bien malade. Si vos soins ne parvenaient pas à la sauver, ce serait 2 livres, vous entendez ? 2 livres. Et remarquez-le, ce que fait notre compagnie, dont l'œuvre est si morale, c'est pour le bien des chers babies. Nous avons intérêt à ce qu'ils vivent, puisque leur existence nous rapporte. Nous sommes désolés lorsque l'un d'eux succombe. »
Non, ils n'étaient point désolés, ces honnêtes assureurs, du moment que la mortalité ne dépassait pas une certaine moyenne. Et en offrant de prendre la petite mourante, l'agent avait la certitude de conclure une bonne affaire, ainsi que le démontre cette réponse d'un directeur qui s'y connaissait. Au lendemain de l'enterrement d'un enfant assuré, nous contractons plus d'assurance que jamais. C'était la vérité. Comme il était également vrai que quelques misérables ne reculaient pas devant un crime pour toucher la prime. Infime minorité, hâtons-nous de le dire. La conclusion est que ces compagnies et leur clientèle doivent être surveillées de très près. Mais, au fond d'un pareil hameau, on était en dehors de tout contrôle. Aussi l'agent n'avait-il pas craint d'entrer en relation avec cette odieuse Harde, bien qu'il ne pût douter de quels actes elle était capable.
« Allons, bonne dame, » reprit-il d'un ton encore plus insinuant, « ne comprenez-vous pas votre intérêt ?»
Cependant, elle hésitait à donner les 9 pence, même avec la perspective de toucher bientôt la prime de la petite morte.
« Et cela coûterait ?» redemanda-t-elle, comme si elle eût espéré une réduction.
« 3 pence par mois et par enfant, je vous le répète.
soit 9 pence.
9 pence.
Elle voulut marchander.
C'est inutile, répliqua l'agent. Songez, bonne dame, que malgré vos soins, cet enfant peut mourir demain, aujourd'hui, et que la compagnie aura 2 livres à vous payer.
Voyons.
Signez. Croyez-moi. Signez.
Il avait sur lui plume et encre. Une signature au bas de la police, c'était réglé.
Cette signature fut mise, et sur les 10 shillings enfouis au fond de sa poche, la harde tira 9 pence qu'elle versa entre les mains du courtier. Puis, au moment de prendre congé, tout confit en mines hypocrites, celui-ci ajouta
« Maintenant, bonne dame, bien que je n'ai pas besoin de vous recommander ces chers enfants, je le fais cependant au nom de notre compagnie qui est leur providence. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre, Dieu qui rend au centuple l'aumône faite aux malheureux. Bonjour, bonne dame, bonjour. Le mois prochain, je reviendrai toucher la petite somme, et j'espère trouver vos 3 pensionnaires en parfaite santé. Même cette fillette que votre dévouement finira par guérir. N'oubliez pas que dans notre vieille Angleterre, la vie humaine a une grande valeur et que chaque mort est une perte subie par le capital social. Au revoir, bonne dame, au revoir. »
En effet, dans le Royaume-Uni, on sait exactement ce que vaut une existence anglaise. C'est à 155 livres, soit 3875 francs, qui est estimé tout juste ce type où se mélange le sang des Saxons, des Normands, des Cambriens et des Pictes. La harde, immobile, laissa l'agent s'éloigner du cabin dont les enfants n'avaient pas osé sortir. Jusqu'alors, elle ne considérait que les quelques guinées que lui valaient chaque année de leur existence, et voilà que leur mort allait lui en rapporter autant.
Ces 9 pence, payés une première fois, ne dépendait-il pas d'elle de ne pas les payer une seconde fois?
Aussi, en rentrant, quel regard la harde jeta sur ces malheureux, le regard d'un épervier à l'oiseau blotti sous les herbes. Il semblait que petit bonhomme et Sissi l'eussent compris. Par instinct, ils reculèrent, comme si les mains de ce monstre fussent prêtes à les étrangler. Toutefois, il convenait d'agir avec prudence. 3 enfants morts, il y aurait eu de quoi éveiller les soupçons. Des 8 ou 9 shillings qui restaient, la harde en emploierait une petite part à les nourrir pendant quelque temps. 3 ou 4 semaines encore. Oh, pas davantage. L'agent, quand il reviendrait, recevrait les 9 pence et la prime d'assurance paierait 10 fois ses frais indispensables. Elle ne songeait plus maintenant à rendre les enfants à la maison de charité. 5 jours après la visite de l'agent, la petite fille mourut, sans qu'un médecin eût été appelé près d'elle. C'était dans la matinée du 6 octobre. La harde, étant allée boire au dehors, avait abandonné les enfants dans son taudis, dont elle avait eu soin de refermer la porte. La malade râlait. Un peu d'eau pour humecter ses lèvres, on ne pouvait lui donner autre chose. Des remèdes, il eût fallu les aller chercher à Donegal et les payer. La harde avait un meilleur emploi de son temps et de son argent. La petite victime n'avait plus la force de remuer. Elle grelottait au milieu des sueurs de la fièvre qui trempait sa litière. Ses yeux se tenaient grands ouverts pour voir une dernière fois. Et il semblait qu'elle se dît « Pourquoi suis-je née? Pourquoi ?» Sissi, accroupie, lui baignait doucement les tempes. Petit bonhomme, dans un coin, regardait, comme il eût regardé une cage qui va s'ouvrir et laisser s'échapper un oiseau. À un gémissement plus plaintif qui contracta la bouche de l'enfant, « Est-ce qu'elle va mourir ? » demanda-t-il, sans peut-être se rendre compte de ce mot.
« Oui, » répondit Sissi, « et elle ira au ciel. »
« On ne peut donc pas aller au ciel sans mourir ?»
« Non, on ne peut pas. » Quelques instants après, un mouvement convulsif agita cette frêle créature, dont la vie ne tenait plus qu'à un souffle. Ses yeux se tournèrent, et son âme d'enfant s'exhala dans un dernier soupir. Sissi tomba à genoux, effarée. Petit bonhomme, imitant sa compagne, s'agenouilla devant ce corps chétif qui ne remuait plus. Lorsque la harde rentra, une heure plus tard, elle se mit à jeter des cris. Puis, ressortant, « Morte ! Morte ! » hurla-t-elle en parcourant le hameau qu'elle voulait prendre à témoin de sa douleur. À peine quelques voisins firent-ils mine de s'en apercevoir. Que leur importait à ces misérables qu'il y eut un malheureux de moins ? N'y en avait-il pas assez d'autres sur la terre ? Et il en pousserait encore. Ce n'est pas cette graine-là qui manquera jamais. En jouant ce rôle, la harde ne songeait qu'à ses intérêts, entendait ne pas compromettre sa prime. Et d'abord, il fallait courir à Donegal réclamer l'assistance du médecin de la compagnie. Si on ne l'avait pas appelé pour soigner l'enfant, on lui demanderait de venir constater son décès. Formalité indispensable au paiement de l'assurance. La harde partit donc le jour même, confiant la petite morte à la garde des deux enfants. Elle quitta Windhoek vers 2 heures de l'après-midi, et comme il y avait 6 milles pour aller et 6 milles pour revenir, elle ne serait pas de retour avant 8 ou 9 heures du soir. Sissi et Petit Bonhomme restèrent dans le cabin, où ils avaient été enfermés. Le garçon, immobile près de l'âtre, osait à peine bouger. Sissi donnait à la fillette plus de soins que la pauvre enfant n'en avait peut-être jamais reçu en toute sa vie. Elle lui lava la figure, elle lui arrangea les cheveux, elle lui enleva sa chemise en loques et la remplaça par une serviette qui séchait à un clou. Ce petit cadavre n'avait pas d'autre suaire, comme il n'aurait pour tombeau que le trou dans lequel on le jetterait. Cette besogne achevée, Sissi embrassa la fillette sur les joues. Petit bonhomme voulut en faire autant, il fut saisi d'épouvante. « Viens, viens !» dit-il à Sissi. « Où ? Dehors ! Viens, viens !» Sissi refusa. Elle ne voulait pas abandonner ce corps dans la hutte. D'ailleurs, la porte était fermée. « Viens, viens !» répéta l'enfant. « Non, non, il faut rester. Elle est toute froide. Et moi aussi, j'ai froid, j'ai froid. Viens, Sissi, viens !» Elle voudrait nous emmener avec elle, là-bas, où elle est. » L'enfant était pris de terreur. Il avait le sentiment qu'il mourrait aussi s'il ne s'en sauvait pas. Le soir commençait à tomber. Sissi alluma un bout de chandelle, fiché dans la fente d'un morceau de bois, et le plaça près de la litière. Petit bonhomme se sentit plus effrayé encore, lorsque cette lumière fit trembloter les objets autour de lui. Il aimait bien Sissi, il l'aimait comme une sœur aînée. Les uniques caresses qu'il eût jamais goûtées lui étaient venues d'elle. Mais il ne pouvait pas rester, il ne le pouvait pas. Et alors, de ses mains, en s'écorchant, en se brisant les ongles, il parvint à creuser la terre au coin de la porte, à déplacer les cailloux qui en supportaient le montant, à faire un trou assez large pour lui livrer passage. « Viens, viens !» dit-il une dernière fois. « Non, » répondit Sissi, « je ne veux pas. Elle serait seule. Je ne veux pas. » Petit bonhomme se jeta à son cou, l'étreignit, l'embrassa. Puis, se faufilant à travers le trou, il disparut, laissant Sissi près de la petite porte. Quelques jours après, l'enfant, rencontré dans la campagne, tombait entre les mains du montreur de marionnettes, et l'on sait ce qu'il en advint.